Bonjour et bienvenue sur News FM. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission que nous avons appelée CEF News. Cette émission a été préparée par David, Gatien et moi-même Yanis. Faisons partie du CEF, le relais du Trièves, un centre éducatif fermé. Salut l'équipe, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va très bien, Yanis. Ça
va. Dans cette émission, nous allons vous parler de la vie dans un CEF, avec plusieurs interviews de personnes qui travaillent. Nous allons aussi parler de foot et de la thématique de l'abandon avec les rubriques de mes camarades. Et pour commencer CEF News, nous accueillons aujourd'hui M. Abdelkrim Bakli, directeur du CEF Le Relais du Trièves. Bonjour M. Bakli.
Bonjour Yanis, merci de votre accueil.
De rien. Je laisse la parole à David qui va vous interviewer.
Bonjour M. Bakli, comment allez-vous?
Bonjour David, ça va, merci et vous?
Ça va très bien. Alors je vais vous poser quelques questions par rapport au CEF aujourd'hui.
D'accord.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus, s'il vous plaît?
Monsieur Bakli, directeur, depuis 2 ans au CEF Le Relais du Trièves, qui est un établissement de la sauvegarde d'Isère. Avant de prendre mes fonctions de directeur, je travaillais dans une autre association dans le cadre de la protection de l'enfance, toujours, pendant près de 8 ans. Mais je n'étais pas du côté du pénal, on était plutôt de la protection civile. Et je n'étais pas dans un établissement, on peut dire fermé, mais j'étais plutôt sur ce qu'on appelle le milieu ouvert. C'est-à-dire que les jeunes restaient avec leur famille au niveau de leur domicile et mes équipes éducatives, elles intervenaient dans la famille et puis après dans un travail qu'elles mettaient en place au niveau du quartier ou du lieu social où vivaient la famille et l'enfant.
D'accord.
Et puis après, j'ai passé des diplômes, un diplôme de directeur qu'on appelle le CAFDES, qui me permet d'être légitimé dans la fonction de directeur, au moins théoriquement par le diplôme. Et puis j'ai été embauché par la sauvegarde d'Isère le 1er septembre 2015.
Et pourquoi avoir choisi ce métier?
Ah, mon pauvre ami, vous posez des questions, elles sont compliquées. je ne sais pas si on choisit ce métier. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on ne choisit pas son métier. Moi, je crois surtout qu'on a la possibilité de rencontrer des gens. Voilà, c'est les rencontres qui font la vie. Et j'ai rencontré des gens, moi, qui m'ont donné cette passion du travail, de vouloir aider l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, les agissements, et puis surtout de me dire, il va falloir que tu fasses un métier comme beaucoup d'autres, qui servent un peu la société. Mais je pense que c'est vraiment le fait d'avoir rencontré des personnes qui m'ont donné l'envie et le goût de faire ce métier.
Vous pouvez nous parler un peu du CEF et de son fonctionnement?
Alors, il y a une chose qu'il faut savoir sur un centre éducatif fermé. Comme vous savez, c'est un établissement et c'est un fonctionnement qui est un peu particulier parce que c'est un fonctionnement 365 jours sur 365. Ça veut dire que c'est un établissement qui ne ferme jamais. Et la prise en charge se fait 24 heures sur 24, ce qui demande une certaine logistique au niveau du personnel et au niveau de l'organisation. Alors du côté du personnel, il y a mes 2 éducateurs qui sont là. C'est des fois un peu compliqué dans la gestion, travail, planning, congés, activités. Mais ce qu'il y a de bien, quand on a une équipe comme celle que je peux avoir moi aujourd'hui, avec certains éducateurs qui sont là présents depuis plusieurs années, il y a un fonctionnement qui se met en place et il y a des habitudes qui se mettent en place. Mais le fonctionnement au quotidien, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il n'y a pas que des éducateurs. Comme vous le disiez, il y a un directeur, il y a des assistants de direction, il y a des chefs de service, l'infirmière, des éducateurs techniques, des maîtresses de maison, un agent technique. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent faire en sorte que la prise en charge qu'on vous propose, elle essaye de répondre à tout ce que nous dit de mettre en œuvre la loi, d'abord, parce que c'est la loi qui gère et qui régit le fonctionnement d'établissement. Et puis, on a un financeur qui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse, mais qui n'est pas que financeur. Ce qui est intéressant avec la protection judiciaire de la jeunesse, c'est qu'elle vient aussi cadrer le travail de manière technique, en nous emmenant des supports, des formations. Et puis, on a des réseaux où on peut améliorer la prise en charge selon l'évolution de la loi et de la problématique des délinquants mineurs.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans un CEF?
Je vais rester du côté des mineurs, parce que dans le fonctionnement avec les salariés, moi je dis toujours tant qu'il y a du dialogue, même si des fois, moi j'apprécie, dans la rencontre avec mes salariés, il y a toujours la possibilité de travailler, de réfléchir. J'en parlais tout à l'heure justement avec un de mes éducateurs, une des difficultés moi que je rencontre au niveau du CEF, au niveau des mineurs, ça va peut-être pas vous faire plaisir jeunes gens, c'est que je trouve que 6 mois c'est trop court. C'est-à-dire que j'estime qu'on devrait pouvoir travailler avec vous alors sur un peu plus que 6 mois. Bien évidemment, pour répondre à l'interjection d'Yanis, ce ne serait pas 6 mois au CEF, mais de dire, une fois qu'ils ont fait le parcours de 6 mois au CEF, comment on pourrait continuer à les accompagner encore pendant quelques semaines pour que le fait qu'ils retournent chez eux dans un autre établissement, ça se passe de manière tranquille pour eux et qu'il n'y ait pas cette notion d'abandon dont on parlera un peu tout à l'heure, ou de dire presque qu'ils ont été dans un établissement pendant 6 mois, ils ont rencontré des gens, Ça a pu être difficile, ils ont eu des moments qui étaient un peu plus difficiles parce que je peux comprendre que c'est compliqué. Mais tout d'un coup, les gens qui les ont accompagnés, comme je vous disais, 24 heures sur 24, pratiquement du jour au lendemain, ils ne les voient plus. Donc c'est très compliqué parce que vous avez créé des liens. Vous avez... Et moi, je travaille en ce moment, notamment avec la protection judiciaire de la jeunesse, pour qu'on puisse dire, on va continuer à les accompagner, pas forcément dans le centre éducatif, mais de dire qu'on reste encore en lien un peu avec eux pour leur permettre de travailler et de reprendre un peu un envol. Et puis, une des difficultés, mais ça, c'est celle que je rencontre avec vous, comment je peux les amener à passer du nous, le groupe, parce que vous parlez souvent au nom du groupe.
Oui.
Il y en a d'autres qui sont plus bavards que moi, et je regarde sur ma gauche. Il y en a qui ont beaucoup tendance à parler au nom du groupe, ce qui est intéressant. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire aussi, c'est à faire en sorte que vous deveniez sujet et que vous disiez un jour « je ». Voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux devenir, voilà ce que je veux construire. Et je trouve que des fois, c'est un peu compliqué parce que vous avez toujours du mal à pouvoir dire certaines choses, à parler de vous-même. Et vous êtes souvent dans une sorte de représentation qui est tout à fait logique. Le regard des autres, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que le plus difficile quand même des fois, c'est qu'on se dit, on espère bien qu'après avoir fait le passage dans un centre éducatif fermé, ils ont réussi au moins à comprendre certains fonctionnements, certains cadres et certaines règles. Pour éviter de retomber dans la délinquance et d'être dans la récidive. Parce que je vous le rappelle, et je vous le dis souvent, quand on est dans ce parcours-là, c'est un parcours qui nous suit toute la vie.
Ouais.
La vie, elle est déjà difficile. Alors, tant qu'on peut éviter de s'en rajouter ou d'avoir d'autres handicaps, vraiment pour conclure, moi, je trouve que quand je parle avec chacun d'entre vous ou avec mes éducateurs de manière individuelle, j'apprécie vraiment parce que j'apprends beaucoup avec vous. Vous avez beaucoup de compétences, vous avez beaucoup de bonnes choses. Ce qui peut être des fois un peu fatigant, c'est que vous revenez toujours des fois sur le côté... comment on pourrait dire, Yanis ? Personnage. J'apprécie la personne que vous êtes, mais des fois, j'ai souvent affaire à un personnage. Et quand vous partez, je le dis, quand vous partez, c'est souvent même difficile pour les éducateurs et le directeur.
Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus valorisant dans un CEF, d'après vous ?
Pour poursuivre sur ce que je disais... il y a quelques secondes, quand on a des nouvelles, par exemple d'un jeune mineur qui est passé par notre établissement, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement 90, je regarde mes collègues éducateurs, à peu près 90% des jeunes continuent de nous appeler après pour donner des nouvelles. Mais ce qui est plus valorisant, c'est quand le gamin a tenu les quatre phases, qu'il a fait le suivi sur toute la longueur, qu'il a mis en place son projet professionnel, et que quand il, soit qu'il retourne à son domicile, soit qu'il continue sur un lieu de stage ou dans un centre de formation, et bien que finalement, ce qu'il a appris pendant ces 6 mois, de lui et des autres, ça lui permet de continuer d'avancer dans la vie, puis de travailler à être le citoyen de demain qui prendra la suite des vieux que nous sommes.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Bakli.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et merci pour votre interview.
Merci à vous.
À la prochaine.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On va donc enchaîner avec la rubrique sur l'abandon présentée par Gatien. Bonjour Gatien.
Bonjour. Je vais vous parler de l'abandon à travers l'histoire d'une famille que j'ai rencontrée composée d'un père, d'une mère, d'une sœur et 2 frères. Un jour, la mère est partie à minuit et la sœur est partie le lendemain à 11h30. La police est venue chercher les 2 frères à l'école et au collège pour les emmener au commissariat. Un monsieur les attendait pour les emmener dans un foyer dans le sud. Ils y sont restés pendant 11 mois. Puis, ils sont partis dans une famille d'accueil où ils sont restés pendant 1 an et demi. Ils ont connu une autre famille dans laquelle ils sont restés 1 an et demi. Puis, ils se sont séparés. Les 2 frères sont ensuite partis chacun dans une famille. Puis, le plus petit des 2 frères a fugué. Ensuite, il est parti en foyer où il est resté pendant 11 mois. Puis il a fugué. Il va retourner chez son père et il va faire des stages dans le commerce. Aujourd'hui, 1,3 million de jeunes de moins de 18 ans en Europe de l'Est et en Asie centrale vivent séparés de leurs parents. Ces chiffres sont les plus élevés du monde selon un rapport de l'UNICEF. En France, 500 à 600 enfants sont abandonnés chaque année.
Merci Gatien.
De rien.
Merci.
J'ai une question, Gatien. D'où tu tiens tes sources, s'il te plaît ?
De mes sources ?
Oui.
D'une famille que j'ai rencontrée.
D'accord, très bien. Mais tes recherches, elles sont faites sur Internet, les interviews, au niveau des chiffres ?
Ah, ouais.
D'accord. Ouais, c'est plutôt intéressant.
Merci.
Très intéressant.
Merci, Gatien.
Merci.
Merci, Gatien. Nous faisons donc une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la suite de CEF News.
Donc j'ai pas de chance en amour. Je suis en bas de la tour avec la tête du réseau et le gérant du four. Après minuit on se voit si tu veux. Mais à midi je dois retourner bosser. Tu me disais arrête, va chercher du taf, sinon laisse tomber. Je veux pas que le père de mon fils fasse le bandit. Et qu'à 6h on vienne le chercher chez moi. Mais moi je t'écoutais pas, je coupais les Loki. Parce que les veines des Yankee faisaient de l'eczéma. Nouvelle, y'a ce nouvelle location. Elle me disait bébé fais attention. Bah ouais. Quartier disciplinaire de Fleury, j'suis en rotation. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que j'suis un traficante de la calle. Un jour j'peux me faire capturer par les Mbila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que j'suis un traficante de la calle. Un jour j'peux me faire capturer par les Mbila. Dernier coup de fil, un dernier yo-yo. Et mon cœur passe par la fenêtre comme le yo-yo. J'me rappelle de nous, j'me rappelle d'avant. Y'a rien qu'à changer, non même pas ton numéro. Euro. Je sais que ça peut gâcher ma vie. Juste toi et moi à bord du vaisseau. Les deux pieds dans la Ferrari. Des liasses en dessous du lit. Inséparables comme Clyde et Bonnie. Vie de bandit de gros bonnet. Mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Des liasses en dessous du lit. Inséparables comme Clyde et Bonnie. Vie de bandit de gros bonnet. Mais sois silencieux sur tout ce que j'ai commis. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un traficante de la calle. Un jour je peux me faire capturer par les Mbila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un traficante de la calle. Un jour je peux me faire capturer par les Mbila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un traficante de la calle. Un jour je peux me faire capturer par les Mbila. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un traficante de la taille. Un jour je peux me faire capturer par les Mbila.
De retour dans l'émission CEF News. On va écouter à présent l'interview de deux éducateurs du CEF, le relais du Trièves, Amine et Ali. Bonjour.
Salut Yanis, ça va?
Ça va très bien.
Ça va Yanis?
Ça va.
Tranquille. L'émission se déroule bien?
Ça va, tout va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus, s'il vous plaît?
Je vais commencer. Je m'appelle Amine, donc éducateur au sein de la structure du CEF, relais du Trièves. Voilà, ça va faire la troisième année là que j'y suis. Donc en tant qu'éducateur technique là-bas.
Alors Ali, et donc moi pour ma part ça fait, c'est pareil, j'entame ma troisième année. Je suis en charge du développement du pôle culturel. Donc on met en place un certain nombre d'activités et de projets, notamment l'émission à laquelle on assiste en direct.
Quel est le rôle d'un éducateur dans un centre fermé?
Premièrement, pour moi c'est protéger. les mineurs qu'on a en charge, déjà, premièrement. Et deuxièmement, si on peut contribuer à ce que ces jeunes-là retrouvent une certaine trame de vie saine. Donc voilà, on travaille un peu dans ce sens-là. Aider les jeunes et essayer de les protéger. Donc c'est la priorité, en fait, de notre travail au sein de la structure. Voilà, première.
D'accord.
D'accord. Et pour compléter aussi, dans le travail qu'on met en place au sein de la structure, c'est un accompagnement sur 6 mois, donc qui se découpe en 4 phases. Une première phase d'observation, travail un petit peu sur les actes mis en œuvre et qui les ont amenés au sein du CEF. Ensuite, travail sur le projet professionnel et insertion vers la voie sociale ou la voie d'insertion à travers des stages. Et après, bon, on lâche la main et puis vous continuez votre chemin.
Ok. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Donc, les salaires, ouais, effectivement. Vous avez bien entendu, notez bien, les salaires.
Le salaire, ouais.
C'est pour les... On veut devenir riche, on veut devenir travailleur social.
Exactement, voilà. Non, pour rejoindre le directeur qui a été interviewé juste avant, donc voilà, moi, je rejoins un peu ce qu'il a dit. C'est pas vraiment un choix, parce que moi, je vais parler pour ma part, en fait. Je vais pas trop prendre de temps sur la radio, mais en fait, ça s'est fait... entre guillemets, au hasard. Pour ceux qui croient au hasard, moi j'y crois pas, mais voilà, ça s'est fait au hasard. En fait, j'ai accompagné un éducateur qui était à la base diplômé dans ce métier là et puis en fait, lui, il est monté pour faire son entretien, et quand il est redescendu, le chef de service m'a vu avec lui et m'a proposé, en fait, m'a demandé si vous aussi vous postulez, en fait, pour ce poste là moi je dis non, moi je n'ai rien à voir, en fait, moi je travaille dans la logistique.
Il a trouvé le mot, c'est pour ça.
Donc voilà. Et puis en fait, comment ça s'est fait? C'est qu'en fait, moi, dans un futur proche, je comptais, en fait, travailler dans le social, parce qu'en fait, j'ai toujours eu un contact avec les jeunes, voilà, assez facile, et que j'aime bien, en fait, travailler avec les jeunes et que ça m'intéresse. Donc du coup, j'ai demandé un entretien pour détailler un peu plus tout ça, et puis ça m'a plu. On m'a expliqué le travail, j'ai essayé et puis j'ai continué. Et maintenant, voilà, ça a fait 3 ans. Oui, c'est très, très, très intéressant. Comme il a dit le directeur, on apprend de jour en jour. C'est bien pour ça que j'y reste et j'ai l'intention d'y rester encore.
D'accord. Voilà. Quelque chose à rajouter, Ali ?
Non, c'est une déclaration d'amour qu'il vient de faire.
Ouais, exactement, voilà.
Déclaration.
Pour compléter le propos, après, moi, comment je suis arrivé dans le social, j'y suis né. Hein. Je suis issu d'un milieu populaire, et donc au quotidien, les situations dans lesquelles on était confrontés, c'était souvent, ça venait solliciter un petit peu l'entraide, le vivre ensemble, et donc c'est des choses, des valeurs qui au quotidien je tente de transmettre autour de moi, et notamment aux jeunes que j'accompagne, et ça s'est fait très naturellement. Ça s'est fait très naturellement dans tous les domaines dans lesquels j'ai exercé. Il y avait cette fonction sociale qui était au cœur de mes valeurs, et donc du coup arriver au CEF, c'était comme arriver un petit peu à la maison, quoi.
Quelle relation essayez-vous d'avoir avec les jeunes du CEF?
Très bonne question. Est-ce que je peux te retourner la question? Quelle relation essayez-vous d'avoir avec les éducateurs au CEF, Yanis?
Pouvez-vous répondre à mes questions, s'il vous plaît?
D'accord, donc tu balances ton joker.
Je suis allé.
Alors, au niveau des... Alors, l'objectif premier, c'est de pouvoir entrer en lien avec les personnes qu'on accompagne. Et donc, le lien, il va se faire à travers les échanges qu'on pourra avoir avec eux dès leur arrivée, en fait. Et finalement, on ne peut pas être en lien de la même manière avec tous les jeunes. Exactement. Il y a plus ou moins d'affinités, donc du coup, ça permet un travail beaucoup plus détaillé quand le lien se fait avec le jeune, notamment, qu'on accompagne. Après, pour l'ensemble des jeunes, la posture reste la même, c'est une posture professionnelle, et donc on reste très attentif aux demandes des jeunes, on reste très attentif à ce que le placement en CEF leur fait vivre, et donc, de manière générale, on reste très présent dans tout ce qui est accompagnement du mineur qui est placé au sein de la structure.
D'accord. Quelque chose à rajouter, Amine ?
C'est vrai que la question de la relation, elle est un peu... Voilà, on ne peut pas, en fait... C'est une réponse qui est vague, parce que chaque individu, en fait, est unique. Donc, vous n'êtes pas tous pareils. Donc, chaque prise en charge est différente. Et chaque relation est différente. Donc, du coup, voilà, en fait, il y a des liens qui se créent. On a des outils pour ça, donc ça peut être dans le cadre d'une activité, ça peut être dans le cadre d'une référence. Donc vraiment, c'est large, cette question, mais On essaie justement de travailler avec, parce qu'on ne peut pas faire sans. Donc une prise en charge avec un jeune sans entrer en relation avec lui, sans un peu d'affectif, ça ne peut pas opérer. Donc voilà. Mais voilà, on essaie vraiment de faire au maximum pour que le jeune soit en confiance, pour que justement il pose ses bagages et puis qu'on puisse en fait travailler avec lui. Voilà.
Quelle est la différence entre un éducateur en CEF et un éducateur ailleurs, dans un foyer,
dans une structure,
ouverte, c'est ça structure,
voilà. En fait, il y a différentes structures. Il y a des structures qui travaillent en milieu ouvert, donc qui font de l'accompagnement au quotidien, et donc qui sont en milieu fermé. Donc, on va rester sur le cadre du CEF. Et pour avoir fait d'autres expériences dans d'autres domaines, dans d'autres structures à caractère social, le milieu fermé, en fait, c'est une vie au quotidien. On fait du quotidien, en fait. On passe. Je ne sais pas si des fois vous en rendez compte. On passe plus de temps au CEF qu'à la maison. Vraiment, des fois, même en rentrant, on rentre avec les valises de tout ce qu'on nous avait dit dans la journée. Et effectivement, dans le cadre du milieu ouvert, les prises en charge, les accompagnements se font de manière différente. Et donc, on a plus en plus d'espaces qui nous permettent de créer du lien quand on est dans le cadre du milieu fermé. Et de faire un accompagnement de qualité avec vous. Mais ça se fait de manière, alors pour le dire, parce que effectivement c'est une équipe pluridisciplinaire, et effectivement la présence des psychologues justement qui permettent de faire relais sur justement les moments où vous avez des espaces avec eux ou avec l'infirmière pour certains qui sont en lien avec elle. Ça nous permet d'avoir des relais, d'avoir un autre regard que le nôtre, et puis de pouvoir nous décaler, et puis d'avoir un retour différent.
Quelque chose à rajouter, Amine ?
Non, je pense qu'il a tout dit à Lucini. Il s'est bien lancé là, et du coup, il a tout dit. Donc voilà.
Bon, ben, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions.
Ouais, de rien, Yanis, il n'y a pas de problème, ça a été un plaisir. Hein.
Mais excuse-moi,
ça
Yanis.
Ça a été un plaisir de répondre.
On retrouve maintenant David.
Alors, c'est plutôt intéressant, effectivement, d'avoir le regard des éducateurs. Mais effectivement, c'est tout aussi intéressant d'avoir le regard de ceux qui sont accompagnés, notamment vous. Je parle pour Gatien, David, Yanis. Et ce serait intéressant pour nous, en tout cas, d'avoir un retour sur ce que vous pensez, mais de manière globale et synthétique, sur ce que vous pensez de votre placement en CEF. Alors, on peut commencer par Gatien.
Ah, ben, tranquille. Rien à dire.
D'accord. C'est déjà beaucoup. Hein. D'accord. Ton placement à la fin de ton placement en CEF,
oui.
Qui arrive pour bientôt. Hein.
Ouais. Ouais.
Et donc, t'es dans quel état d'esprit ?
Ah, tranquille, je suis posé.
D'accord. David ?
Franchement, CEF, faut comprendre que c'est une alternative à la prison et que, en fait, c'est une chance et qu'il y a pas mal d'activités, on va dire. Il y a beaucoup de choses à faire et franchement, c'est pas mal. C'est mieux. C'est peut-être on est enfermé, mais c'est mieux d'être là-bas que d'être en prison. Et même là, on a la radio, on passe un bon moment, donc voilà. Autant être ici que là-bas.
Tout à fait.
Yanis, tu bottes toujours en touche?
Mon camarade David a tout dit.
D'accord, très bien.
Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter.
Merci, monsieur l'avocat.
De rien. Bon, on retrouve maintenant David avec la rubrique sur la technologie dans le foot. David.
Bonjour à tous les amoureux du foot. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait polémique ou pas dans le monde du football, à savoir l'entrée de la technologie dans les décisions arbitrales. Alors j'ai une petite question. Vous souvenez-vous de ce match de la Coupe du Monde de 2010 opposant l'Angleterre face à l'Allemagne en 8e de finale? Alors le but refusé à l'Angleterre qui menait 2-1 face à l'Allemagne aurait pu changer le déroulement du match. Et pire encore, rappelez-vous le match en 86 opposant l'Angleterre à l'Argentine dans lequel Diego Maradona mit une main et inscrit son but faisant gagner son équipe face à l'Allemagne. Te souviens-tu de ça, Lucini ?
Ah oui, j'étais grand déjà.
En plus,
tu ne sauras pas mon âge. Effectivement, c'était la célèbre main de Dieu.
Oui, tout à fait. Hein.
Exact.
J'espère qu'on a des fouteux ici. Hein.
Ah, ouais,
t'en as fait les frais un peu, David. Hein. T'as vu un peu ce qui s'est passé au CEF, donc je pense que voilà. Non, tout le monde y connaît cette action-là et je pense qu'elle est connue mondialement.
Ouais, je pense aussi. Enfin, plusieurs cas similaires existent, ce qui a fait polémique au niveau du public. Donc, l'UEFA a décidé d'améliorer l'arbitrage en faisant appel à des moyens technologiques. Les moyens technologiques utilisés aujourd'hui sont la ligne de but appelée la Goal Line Technology et l'arbitrage vidéo. Mais malgré toutes ces technologies, il y a encore des injustices commises, comme pour le match de la Coupe des Fédérations opposant le Cameroun et le Chili. Vargas, pensant inscrire le premier but de l'histoire du Chili dans cette compétition mondiale sur un service de Vidal, mais la vidéo a finalement annulé le but pour un hors-jeu, pas du tout évident. L'arbitrage vidéo n'a pas fini de faire parler. Bien sûr, il y a du pour et du contre pour ces technologies, mais vont-elles révolutionner l'histoire du football ? Ceux qui pensaient que la vidéo allait tout régler étaient un peu naïfs, pensaient que l'image est une preuve irréfutable est une erreur. Il y a toujours l'interprétation humaine derrière et elle reste faillible et discutable. Est-ce que vous avez un avis personnel sur ça ?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, si on est d'accord ou pas par rapport à toute cette technologie qui est mise en place en ce moment, moi, je dirais que moi, je suis pour ça. En fait, je suis pour ça dans certaines limites, en fait. Donc en fait, il y aura toujours dans le foot et dans le sport des moments où on va subir des injustices, mais qui sont pas vraiment intentionnées. Donc je pense que ça fait partie du sport, mais je suis aussi pour qu'on mette des choses en place pour qu'il y ait un maximum de justice sur ce genre de match, parce que c'est vraiment des très très grands matchs. Donc du coup, ça peut faire beaucoup d'impact en fait sur le public qui regarde, sur les supporters et tout ça. Donc moi, si ça améliore le déroulé du match et que ça soit juste, donc moi, je suis pour cette technologie-là, mais dans les limites. Parce que si on en fait trop après, exactement. Après,
et toi, Lucini, qu'en penses-tu ?
Je renverrai à monsieur le directeur qui a vécu l'époque des poteaux carrés, qui pourra nous dire un mot là-dessus, je pense.
Avec quelque chose à rajouter, monsieur Bakli ?
Et des charges jusqu'au genou.
Je remercie Lucini et Amine. Quelle belle époque. Je ne suis pas forcément d'accord avec Amine, parce que pour moi, la vidéo n'a rien à faire dans le foot. Pourquoi ? Parce que moi, j'estime que l'erreur, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et ceux qui ont vu ce match remarquable, comme disait Aliou Seni, il y a ceux qui ont retenu la main de Maradona. Non, moi, ce que j'ai retenu, c'est le but qu'il met après. Il part du milieu du terrain, il dribble je ne sais pas combien de joueurs pour arriver et marquer le but tout seul. Pour moi, la justice, c'est un peu ça. D'ailleurs, il y a ceux qui ont dit « on retiendra que la main » et ceux qui ont dit « oui, mais après, il y a le coup de génie derrière ». C'est un peu ça, des fois, dans un CEF. Il peut y avoir une erreur. Souvent, vous êtes là parce que vous avez commis des erreurs. Ce qu'on aimerait bien voir après, nous, c'est comment vous pouvez marquer des buts en partant du milieu du terrain, dans la vie, et en réussissant l'objectif. Mais je suis contre la vidéo, moi.
C'est une bonne vision.
Sauf au CEF, parce qu'elle est imposée par la loi, il y a des endroits bien précis. Et les poteaux carrés et les shorts, quelle belle époque jeunesse. Merci à vous.
Merci à vous, monsieur Bakli. Donc revenons-en à nos moutons. Maintenant, c'est à l'UEFA de régler ce problème et de rectifier leur technologie. Voilà tout.
Merci David.
Pas de souci, avec plaisir.
On fait une nouvelle pause musicale et on se retrouve pour la fin de notre émission.
Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle-là. la télé. Elle a dansé ma choré. Elle fait la go. Qui connaît pas Charon? Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. J'ai sorti ma mort, sorti ma trappe. Les rappeurs m'ont pris pour leur modèle. Devant la maille, devant les femmes. Trop de principes, on reste modeste. Les types ont cramé nos disques. Les bitches ont capté nos vies. J'fais des avances à sa maîtresse. Mon fils joue à la play dans la puissette. Fais bien les choses, la vie c'est drain. Le fils du voisin joue à la dinette. J'ai pas l'argent par la fenêtre. Tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros j'ai dit bah moi l'argent. J'fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ses lolos. Elle m'a pas follow pas quand je les follow. Elle fait la go. Qui connaît pas Charo? Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Elle fait la go. Qui connaît pas Charo? Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Mais qu'est-ce qui s'est passé ma belle? Tu me reconnais? Allez, danse sur ma choré. Allez, danse sur ma choré. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma belle? Sans mon attente, tu me reconnais? Allez, danse sur ma choré. Allez, danse sur ma choré.
Et voilà, CES News, c'est fini. Merci à Monsieur Bakli, Amine et Ali qui ont participé à cette émission.
Merci de nous avoir invités.
Merci à toi, merci. Anis. Merci à David. Merci à Gassien.
Merci à vous tous.
Merci à tous ceux qui ont participé. C'était un plaisir.
Merci également à Ali et Nico. Et Nico n'est pas présent.
Ah, il entendra les remerciements. On lui transmettra. Voilà.
Ali qui, lequel?
Ali.
D'accord.
Ça commence. Bon.
Et Greg et Christophe aussi de News FM pour nous avoir aidé à préparer l'émission.
Merci Christophe et Greg, franchement.
Merci.
Bon moment.
C'était David, Gassien et Anis pour CEF News sur News FM. Salut à tous.
Merci.
Ciao. Bonne journée.